la deuxième partie d'émission. Et pour commencer, on va faire un petit point. Alors, c'est un petit peu un jeu de mots puisque nous allons vous parler d'une sélection de points seuils policiers. Je rappelle que cette collection, c'est la collection de poche des éditions du Seuil. Et là, évidemment, on va parler des romans noirs. Et non pas qu'on abandonne les autres, mais en février, on parlera des autres éditions de poche. Là, eh bien, il y en a beaucoup, donc ça va nous permettre de vous parler un petit peu plus longuement des quelques rééditions. Ça vous permet de rattraper un petit peu si vous en auriez loupé quelques-uns.
Et de lire un peu moins cher.
Exactement, puisque c'est une chronique que nous intitulons régulièrement « Lire pas cher ». Donc en gros, sélection janvier-février. Et puis en février, ben, on vous fera d'autres éditeurs, comme on vient de le dire. Il y a un florilège de réédition. Commençons par Craig Johnson. Craig Johnson, découvert par les éditions Gallmeister. Et celui-là, c'est le deuxième de la série. Il s'appelle « Le camp des morts ». Et on retrouve le magnifique personnage de Walt Longmire, qui est shérif dans le comté d'Absaroka. On est dans le Wyoming, aux États-Unis. Ici, il va enquêter sur la mort d'une très vieille dame, Marie Barriora. En fait, celui qui lui demande d'enquêter, c'est Lucien Connally, qui est son ami de toujours, qui était le shérif et qui est son mentor, en quelque sorte. Et en fait, il lui révèle que la vieille dame, c'était tout simplement son grand amour. Évidemment, Longmire, il va foncer et il va se mettre en chasse pour découvrir qui a finalement assassiné cette vieille dame. Comme je l'ai dit, c'est le deuxième volet des quêtes du shérif de ces hautes plaines et on se régale du personnage, de l'enquête, mais aussi du personnage secondaire. Vic, l'adjointe à la langue très fleurie. Et puis on a surtout Henry Standing Bar, l'ami...
Bear, oui. Comme l'ours,
tu as raison. Mais c'est parce qu'il est souvent en bas. C'est l'ami indéfectible de ce qu'appelle Longmire le peuple, c'est-à-dire l'Indien, qui est intègre, mais dont la sagesse s'arrête lorsqu'il faut défendre son copain ou la justice. On a énormément d'humanité, énormément d'humanisme à travers la plume de Craig Johnson. Une précision, la traduction, c'est Sophie Aslanides. On peut d'ailleurs dire la même chose, humanisme, humanité, de l'américain Ron Rash, dont le chant de la Tamassie ressort courant février. En quelques mots, le pitch, à la suite de la noyade accidentelle d'une fillette, deux camps s'opposent au bord de cette rivière encore indomptée. C'est une des seules rivières des États-Unis dans lequel on n'a pas encore fait de travaux. Ceux qui veulent détourner les flots, parce qu'ils veulent récupérer le corps de l'enfant. Évidemment, les parents, mais aussi plein d'autres personnes dont c'est plutôt l'intérêt. Et puis, il y a ceux, on va les appeler les écolos, ça va pas, qui défendent l'idée que cette rivière doit rester à jamais intacte. Et au milieu de ces deux camps, Maggie, une jeune photographe, qui est originaire de la région, qui connaît beaucoup d'entre eux, qui a même eu une histoire d'amour avant, il y a longtemps. Et évidemment, ses souvenirs, ça va troubler un petit peu sa vision.
Pour une photographe, c'est génial.
Voilà, exactement. Et c'est un petit peu ça. C'est des points de vue que nous montre Ron Rash, que nous décrit Ron Rash. Et les points de vue, il n'y en a pas de vrais. Il ne donne pas la vérité. De temps en temps, il donne un peu sa vérité. Mais ça qui est intéressant avec ce type de roman noir, c'est que il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, justement. Et ça, c'est vraiment plus qu'un bon roman. C'est tout simplement un beau roman. Traduit par Isabelle Reynarez. Alors, on va quitter les États-Unis et on va passer au continent africain, plus exactement le Moyen-Orient, Jacques.
En fait, en Égypte, avec un roman de Parker Bilal qui s'appelle Meurtre rituel à Imbaba. C'est la deuxième enquête de son héros, qui est un ex-flic soudanais, il s'appelle Makana, et il est devenu détective privé au Caire, en Égypte donc, après en fait la prise du pouvoir au Soudan par les islamistes. Il enquête cette fois-ci à la fois sur des lettres de menace reçues par une fameuse agence de voyage de la capitale, dans laquelle il va aller travailler, et aussi sur des meurtres de jeunes gamins d'un quartier pauvre de la ville, le quartier d'Imbaba. Et alors il se demande si c'est une guerre de quartier, une guerre de religion entre des musulmans fanatiques et des coptes, parce qu'il reste encore des coptes dans ce quartier. Mais en fait, ce sont tous des pauvres Et on se demande bien pourquoi ils vont s'entretuer. Il n'y a pas vraiment de raison. Et Makana...
Le pouvoir, peut-être.
Le pouvoir, peut-être. Exactement. Il découvrira, évidemment, que c'est pas aussi simple que ça. Makana, ce flic, c'est un flic... Enfin, c'est un ex-flic, maintenant, c'est un détective privé. Il est à la fois désenchanté, un peu foutraque, mais il est terriblement efficace. À l'instar, disons, de ses collègues détectives hard-boiled américains, il s'en prend aussi souvent... plein la gueule, au sens propre et au sens figuré du terme. C'est un roman qui est écrit en anglais, parce que Parker Bilal, c'est sa langue maternelle, celle de sa mère. Son père, lui, est soudanais. Et donc, il écrit en anglais, et il est traduit donc par Gérard de Chergé.
Voilà, ben moi, on va aller filer de l'autre côté du continent africain, on va aller plein sud, avec un roman de Deon Meyer qui s'appelle En vrille, qui est sorti d'ailleurs en grand format l'année dernière. Donc vous voyez, il n'y a pas longtemps à attendre pour avoir le format de poche. L'auteur sud-africain, bien connu maintenant, nous emmène dans les vignobles du Cap, à la recherche de l'assassin d'un jeune ambitieux. Ce jeune ambitieux qui paraît de prime abord très sympathique, a pas mal de casseroles cachées. Et évidemment, comme toujours dans les romans de Deon Meyer, on va avoir plusieurs enquêtes qui se mêlent, qui s'en mêlent. Et puis surtout, on retrouve avec grand plaisir un de ses personnages récurrents, Benny Grissel, le flic, qui n'en a pas fini, mais pas fini du tout, avec ses problèmes d'alcool.
Alors imagine qu'évidemment, s'il fait une enquête dans les vignes, ça ne doit pas aider.
Ben non, parce qu'en fait, l'enquête dans les vignes, elle est habilement détournée par le fils d'un africaneur qui a longtemps cultivé la vigne, et le fils l'a repris, et il va se confesser à une avocate. Et on découvre donc justement l'œnologie à la mode, on va dire, africaneurs, depuis que les gens là-bas ont planté et cultivent la vigne. Et c'est plutôt intéressant et très bien intégré dans le récit et dans l'enquête. Donc je rappelle le titre. En vrille, Deon Meyer. Alors, on vous a fait un petit tour du monde là quand même, hein. Et bien, on va revenir en Europe avec un auteur italien qui, en deux romans, a su imposer son style et son univers. L'auteur, c'est Mimmo Gangemi, et le livre, c'est Le Pacte du Petit Juge. C'est le deuxième roman consacré à Alberto Lenzi.
Le petit juge. Giudice.
Voilà, c'est un juge, comme il le dit dans le premier, un juge comme ci, comme ça. Il a beaucoup de défauts, ce juge, mais il est quand même un peu opiniâtre. Donc, ici, dans cet épisode, on a un chargement de cocaïne qui disparaît sous les yeux des flics. Mais, d'un autre côté, on a aussi des travailleurs clandestins qui sont assassinés dans un petit village tranquille. Et Lenzi, il va aller jusqu'au bout parce que son petit cœur bat pour ces travailleurs émigrés, ces sans-papiers, ces migrants qui ont été assassinés et dont tout le monde se fiche. Donc il veut absolument connaître le mot de la fin. Alors ces enquêtes...
Ils ont été exploités avant d'être assassinés d'ailleurs.
En plus, oui, évidemment. Ces enquêtes se passent en Calabre. C'est juste, on a juste envie de prendre un billet d'avion et d'aller visiter là-bas. Et puis on a un style, une langue savoureuse, très très bien restituée par son traducteur, Christophe Mileschi. C'est vraiment un pur plaisir. On reste en Italie, Jacques ?
Oui, avec deux auteurs, Carlo Bonini et Giancarlo De Cataldo.
Mais un seul livre,
qui s'appelle Subura. Bon, Giancarlo De Cataldo, vous le connaissez. Il a écrit Romanzo Criminale, entre autres. Et ce roman, qui s'appelle donc Subura, qui est sous-titré Rome, capitale de la mafia, en fait, c'est une espèce de suite de Romanzo Criminale, qui racontait le roman criminel de Rome au départ. Donc voilà, sauf c'est quelques années plus tard. C'est pas obligé d'avoir lu Romanzo Criminale pour lire Subura, mais c'est dommage de pas l'avoir lu, donc on pourrait peut-être profiter pour lire les deux.
Peut-être que même si on lit le deuxième, ça donne trop envie de lire
voilà,
le premier aussi. Hein.
Exactement. Cataldo et Bonini, en fait, dans ce roman, Bonini c'est un journaliste, en fait. Et Giancarlo De Cataldo, je rappelle, à part écrivain, il est surtout juge. Et donc, en fait, ils vont raconter la lutte entre un flic, qui est enfin un carabinier, et un truand. Tous les deux ont été dans la mouvance d'extrême droite. Le truand l'y est encore plus ou moins. Et, en fait, cette lutte entre le flic et le truand va être arbitrée, si j'ose dire, par les différentes factions mafieuses de la capitale, les Napolitains, les Siciliens, les Gitans, les Roumains, mais aussi par des politiciens véreux et corrompus, et il y en a, au même titre que certains pontes de l'Église catholique, qui sont tout aussi véreux et corrompus, et eux en plus, ils sont donneurs de leçons, bien que terriblement habités par le vice. Ce qui n'est pas gênant dans le fond, mais quand on donne des leçons, c'est pas terrible. Et il y a comme liant de cette enquête, de cette lutte, comme un peu le catalyseur, c'est la drogue. Aussi bien pour l'usage et l'addiction d'un côté, que les trafiquants de l'autre. Tout ça pour construire une superbe ville littorale qui irait de Rome jusqu'à la mer. Et j'ai oublié de dire, donc ce Suburra est traduit évidemment par
Serge Carducani, un des grands spécialistes du polar italien et un très bon traducteur. On finit en Écosse.
Voilà, on reste en Europe, on remonte dans le nord, en Écosse avec Gordon Ferris pour un roman qui s'appelle Les Justiciers de Glasgow, qui est traduit lui par Hubert Tesnas. C'est un peu un polar historique puisque on est en 1946 en Écosse. Cette année-là, il y a la canicule et elle rend la vie des Glasvégiens.
Glasvégiens.
Eh oui, j'ai cherché.
Ah.
Encore plus difficile, surtout pour les plus pauvres, dans un pays qui est encore soumis aux restrictions d'après-guerre. Douglas Brody, qui est le héros de Gordon Ferris, il est ex-officier. Enfin, il est officier pendant la guerre et avant la guerre, il était flic. Et il en a trop vu maintenant, il est journaliste à la Gazette de Glasgow. Et il s'intéresse dans ce roman de près à un groupe de justiciers des Highlands, justiciers de Glasgow du titre donc, qui ont décidé de rendre la justice à la place de l'État. Ils considèrent que l'État est défaillant, donc ceux qui n'ont pas été punis décident de le faire. Enfin, ils décident de les punir. Évidemment, il va y avoir des politiques qui seront pris pour cible par le groupuscule ou par d'autres. Et le pays va vite rentrer, disons, en ébullition, et pas seulement à cause de la canicule, bien évidemment. Du coup, la formation de flics et de militaires de Gordon Brody, pas de Gordon Brody, de
Douglas
Brody, Gordon, c'est l'auteur, ça va bien l'aider pour démêler cette affaire un petit peu compliquée. Il va aussi essayer, peut-être en vain, de remettre un peu de calme dans sa vie après cette guerre qu'il a un peu détruite. C'est un polar à la fois politique, très très rythmé, très noir et aussi passablement violent. Mais très recommandable, bien évidemment, sinon on n'en parlerait pas.
Exactement. Oui, puisque c'est notre sélection hein, parmi ceux qui sortent. Plus dans le noir d'ailleurs que dans le roman policier classique. Un petit peu de musique peut-être ?
Voilà, puisqu'on était en Écosse, on va écouter un peu de cornemuse. Avec un autre groupe de Celtic Punk, donc dans la précédente émission on écoutait les Real Mackenzies, là on va écouter les Dropkick Murphys qui sont de Boston, ils viennent juste de sortir un nouvel album qui s'appelle 11 Short Stories of Pain and Glory, et on va écouter le morceau qui s'appelle Blood.
Voilà, le titre de l'album semble avoir un rapport avec le recueil dont tu vas nous parler.
Eh ben oui, en fait, puisque l'album des Dropkick Murphys s'appelle, pourrait traduire en français, 11 nouvelles de douleur et de gloire. Ici, dans l'album, le recueil de nouvelles qui est publié, il y en a 40. C'est donc 40 nouvelles d'Ayerdal, un recueil qui s'appelle Sentiment, qui est publié au Diable Vauvert. Ça fait voilà, un peu plus d'un an que Ayerdal, disons, nous a quittés. Et les éditions au Diable Vert font paraître un recueil qui contient l'intégralité de ces nouvelles. auteur de science-fiction, qui savait aussi très bien s'abandonner au noir de nos jours. 40 récits, en fait, auxquels s'ajoute enfin une dizaine d'interviews qui nous éclairent assez bien sur l'univers à la fois baroque et visionnaire de l'auteur lyonnais. Au départ, c'est un petit peu surprenant de lire des nouvelles d'Ayerdal, car en général, ces romans sont plutôt, disons, épais, copieux, 4 à 500 pages, dans lesquels il développe son univers, il met en place tous ses personnages. Et on se rend compte à la lecture de ces récits, donc plus courts, voire bien plus courts, qu'il était tout aussi capable de pointer son regard aiguisé sur les maux de notre monde, et cela aussi bien dans un futur lointain, dans le temps, comme dans l'espace, que dans notre monde d'aujourd'hui, pardon, qui souffre, d'après lui, et c'est pas complètement faux, des mêmes maux dans le passé que dans le futur. Évidemment, c'est lui qui a inventé son futur à partir de notre présent. On y retrouve donc dans ces récits, ces petites nouvelles, ou plus grosses nouvelles, ces colères, ces hargnes, contre tout ce contre lequel il se battait avec des mots, lui se battait avec des mots, le racisme, les inégalités, la lente déshérence de la démocratie, les vieilles croyances religieuses caduques, et aussi, ça revient souvent, l'esprit va-t-en-guerre des militaires, que ce soit de nos jours ou dans les galaxies lointaines. Et autre chose aussi, c'est la lente intrusion des technologies dans notre vie. Ça, c'était un de ces dadas, si j'ose dire. Et cette intrusion n'est pas forcément toujours pour notre bien. C'est un peu l'aspect prophétique de certaines inventions d'Ayerdal qui, dans les années 90 ou début 2000, sont déjà là de nos jours, et pas forcément, comme je le disais, que pour notre bien. Alors il y a tout ce dont il était contre, mais aussi tout ce qu'il aimait, tout le pour, on pourrait dire. Il aimait les échecs, l'écologie, il défendait le sexe sans tabou, l'amour aussi. Certaines de ses nouvelles révèlent son côté romantique, qu'on n'imagine pas forcément, et d'autres, parfois les mêmes, et c'est là en fait tout son talent, montrent sa passion, hélas désenchantée, pour la politique. Je vais juste citer un court extrait d'une de ses nouvelles qui s'appelle La Troisième Lame. C'est un médiateur de l'homéocratie, donc c'est un immense monde qui regroupe plusieurs galaxies, et il enquête dans une galaxie, disons, ou dans une région, et voilà ce qu'il dit à un moment.
Oui, dans un bouquin de 1000 pages, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver le passage.
Trop de choses étaient inutilement complexes, et le fonctionnement avait pris le pas sur la fonction. Il m'a semblé qu'il fallait simplifier et accorder plus d'importance aux gens qu'aux structures. Ce n'est que du bon sens. Eh oui, mais dans l'homéocratie, comme dans nos démocraties, ce n'est pas forcément toujours le bon sens qui prévaut. Le lecteur remarquera à la lecture aussi l'évolution de l'écriture du style d'Ayerdal qui s'affirme tout au long des 40 nouvelles qui sont réparties sur près de 30 ans, et qui sont dans le roman de façon chronologique. Voilà. Un léger regret dans le livre, c'est qu'il est dépourvu de table des matières ou d'un index qui nous permettrait de passer plus aisément d'une nouvelle à l'autre sans forcément respecter justement l'ordre chronologique, mais grappiller une longue nouvelle par-ci, deux courtes par-là, une plutôt SF, une plutôt noire, ou une plutôt récente, une ancienne, en fait au gré un peu des humeurs. C'est un recueil comme ça, à mon sens, ça doit se consommer, se déguster un peu comme ça, en picorant plutôt que de le lire d'une traite. Bien que d'une traite, ça fasse aussi.
Ça peut durer plusieurs années.
Voilà. C'est un gros pavé de 700 pages. Je dois avouer que je ne l'ai pas encore tout à fait fini, parce qu'en fait, je me garde 4 ou 5 nouvelles de côté pour en profiter encore un petit moment du livre. Un autre avantage de ce recueil, et pas des moindres, c'est qu'il m'a vraiment donné envie de relire de la science-fiction, des lectures que j'ai un peu abandonnées ces temps-ci, faute de temps, disons.
Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, on va vous souhaiter d'avoir un bon livre dans un coin pour bientôt. Et puis, au revoir, tout simplement. Au revoir, Jacques.
Au revoir. À la prochaine fois.